Le journal Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Quand les éducateurs brisent la confiance, abusent et brutalisent. 4 plaintes déposées en région parisienne contre un centre pour jeunes adultes autistes. Témoignage d'une maman au début de ce journal. 5 semaines après la disparition de Steve à Nantes, un corps retrouvé hier dans la Loire. Autopsie ce matin. Nous serons en direct de Nantes avec notre envoyé spécial. Dans l'actualité encore, des salariés d'Orange, ex-France Télécom, portent plainte. Une histoire d'ampoule radioactive. Neymar, accusé de viol, échappera-t-il à un procès? Pas assez de preuves pour l'inculper, selon la police au Brésil ce matin. À 8h20, Pierre Veil, vous recevez Odile Deck.
Oui, elle est architecte, urbaniste, designer, artiste. Odile Deck, une des rares femmes architectes françaises à la stature internationale. Elle a créé sa propre école d'architecture à Lyon ces dernières années. Là, elle va l'installer à Paris. Question sur son parcours, ses projets, sa vision de l'urbanisme et de l'architecture confrontée au défi du réchauffement climatique. Elle sera donc notre invitée à 8h20 dans le grand entretien, Odile Deck. Et vos questions, dès maintenant, au standard interactif 01 45 24 7000.
Enfin, le fils d'un nazi rend un tableau spolié à un juif français pendant la guerre. On vous raconte l'histoire, c'est à la fin du journal. C'est une vidéo qui soulève le cœur de jeunes autistes maltraités par leurs éducateurs. Monique a porté plainte il y a quelques jours quand elle a reconnu son fils sur les images. Comme une vingtaine d'autres adultes polyhandicapés, il est placé dans ce centre de la Masse à Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Un centre déjà visé dans le passé par 3 autres plaintes pour violence. Aujourd'hui, Monique est une maman écœurée, impuissante. Et c'est un reportage d'Agera Mohamed de France Bleu Paris.
Une vidéo anonyme qu'elle reçoit sur son téléphone portable. On y voit un groupe de jeunes de la Masse en sortie.
Arrête,
il va te taper, dit une accompagnatrice. Il, c'est un autre éducateur qu'on aperçoit un bâton dans la main. Il s'en sert pour taper un jeune.
Avance vite.
Monique reconnaît immédiatement les cris de Kevin, son fils de 29 ans, autiste. Dans la foulée, elle reçoit aussi des photos de son corps blessé.
Alors là, vous avez ses cuisses, là, c'est le pantalon.
Un énorme hématome.
Un énorme hématome. Là, il y a le bras et il y a le dos du pied. Je pense qu'il a été brûlé avec une cigarette.
La direction de l'établissement lui explique que son fils s'est fait ses hématomes en se blessant tout seul. Mais la gardienne de lycée doute car son enfant a des crises d'angoisse depuis quelques semaines.
Il s'est mis à pleurer, à être agité. Il se réveille tôt et je ne comprenais pas.
Ici, on soigne en tapant ou en shootant au médoc, nous explique un ancien employé. Il a trop peur de parler au micro. Et même si l'éducateur au bâton a été mis à pied, Monique a porté plainte.
J'aimerais que ça change. Peut-être une nouvelle équipe, hein, s'il faut, et aussi que les parents aient confiance.
Et la maman, elle, est rongée par l'inquiétude car elle a dû renvoyer son fils à la Masse à défaut de trouver une place ailleurs.
Un reportage d'Agera Mohamed de France Bleu Paris. Alors en plus des plaintes en 3 ans, il y a aussi eu 13 signalements à l'Agence régionale de santé qui a mené une inspection pas plus tard que la semaine dernière. Ses conclusions sont attendues d'ici ce soir. Quant à la direction de ce centre de Pavillon-sous-Bois, elle refuse de s'exprimer tant que l'enquête est en cours.
8h04, Hélène Roussel, une question. Où est Steve?
La question, taguée sur les murs, hante la ville de Nantes depuis 5 semaines. Peut-être une réponse ce matin. Un corps a été repêché hier dans la Loire, tout près du quai Wilson, tout près de là où Steve Canisso, un jeune animateur périscolaire de 24 ans, a disparu. C'était le soir de la fête de la musique après une charge des forces de l'ordre. Ses proches ont toujours dit qu'il ne savait pas nager. Le corps n'a pas encore été identifié. L'autopsie est prévue ce matin. Je vous propose d'abord la réaction de l'avocate de la famille, Cécile De Oliveira.
Si nous sortons un instant de l'excitation entre guillemets que suscite les faits divers, on est face à un choc et à une douleur et une souffrance qui sont insupportables quand un corps disparaît en mer ou dans la Loire ou dans un fleuve. Et on est dans cette situation très particulière d'une disparition dans l'eau qui amène le corps à changer de lieu, ce qui a été le cas évidemment pour celui qu'on a retrouvé hier en Loire, si c'est celui de Steve Canisso. Ce qui était terrible, et ce qu'il est encore tant qu'on n'a pas une identification certaine, je le rappelle, du corps retrouvé pour la famille, c'est ce sentiment de ne jamais pouvoir offrir une sépulture à quelqu'un qu'on aime.
Maître Cécile De Oliveira qui indique par ailleurs la possibilité de dépayser l'affaire pour la sérénité du dossier. Elle était avec Nicolas Théard ce matin chez nos confrères de France Info. Sarah Tucherer, vous êtes à Nantes. Vous avez quelques précisions ce matin, quelques éléments. Laisse penser qu'il s'agit bien du corps de Steve.
Oui, le corps a été repêché pas très loin de là où il a été vu pour la dernière fois. Il est, selon les mots du procureur de la République, dans un état de décomposition avancée, mais portait au moins un bijou qui devait être présenté à la famille. Seule l'autopsie prévue en fin de matinée permettra d'être totalement affirmatif. S'il s'avère qu'il s'agit bien de Steve, ce sera alors pour ses proches la fin d'une insoutenable attente. La disparition de ce jeune homme, unanimement décrit comme doux et sans histoire, a suscité beaucoup d'émoi ici à Nantes. En ville, on peut voir des affichettes et des tags posant la question « Où est Steve ?». Il y a 10 jours, un mois pile après la disparition, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour une chaîne humaine qu'est Wilson, là où Steve serait tombé. Ces manifestants dénonçaient la lenteur des recherches. Ce n'est que la semaine dernière qu'un sonar venu de Paris a commencé à sonder la Loire. Et c'est finalement une navette fluviale de transport en commun qui a permis hier la découverte de ce corps qui reste à cette heure à identifier.
Sarah Tuchéret en direct de Nantes avec Laurent Macchetti à la technique. Merci à tous les deux. L'IGPN, la police des police chargée quant à elle de faire toute la lumière sur cette soirée du 21 juin rendra ses conclusions au ministre de l'Intérieur dans les tout prochains jours. Plus de 3 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'association Robin des Bois dépose plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. L'association s'inquiète de la pollution au plomb et accuse les autorités d'en minimiser l'ampleur. Ce 15 avril, ce sont 400 tonnes de plomb qui ont brûlé avec le toit et la flèche de la cathédrale. L'agence régionale de la santé se veut rassurante. Malgré tout, 2 écoles et un groupe scolaire ont été fermés. Le chantier de la cathédrale a été, quant à lui, suspendu le temps de la décontamination. C'est là aussi une question sanitaire. Des salariés d'Orange, ex-France Télécom, portent plainte contre l'opérateur, car pendant des années, jusqu'à la fin des années 70, ils ont manipulé sans protection des milliers de parafoudres, ces petites ampoules qui servaient à l'époque de protection sur les appareils électriques ou électroniques. Problème, ces ampoules sont bourrées d'éléments radioactifs. Après le scandale de l'amiante, y aura-t-il un scandale des parafoudres? Les syndicats, en tout cas, ont décidé, Maxime Deps, de saisir la justice.
La plainte a été déposée mi-juillet et l'affaire porte donc sur de petites ampoules, des parafoudres installées jusqu'en 1978 sur le réseau et contenant des éléments radioactifs comme le radium-226. À leur contact, plusieurs agents France Télécom auraient contracté ces dernières années des cancers et autres maladies selon les syndicats qui se battent depuis des années pour que soit reconnu au moins un préjudice d'anxiété, comme l'explique Maître François Laforgue, l'avocat des salariés.
Lorsque, en 1978, on décide de ne plus mettre sur le marché ces parafoudres radioactifs, eh bien, il en reste 60 millions d'entre eux qui, lorsqu'ils sont remplacés par des parafoudres non radioactifs. Mais dans la mesure où aucun inventaire précis n'a été réalisé et qu'aucune campagne de retrait de ces parafoudres radioactifs n'a été entamée, eh bien les agents France Télécom ont continué à être exposés à ces parafoudres radioactifs au gré de leurs interventions sur les poteaux électriques jusqu'à aujourd'hui.
Car aujourd'hui, impossible de dire combien il reste de ces parafoudres encore sur le territoire. Les syndicats évoquent un véritable scandale sanitaire. La CGT dit pouvoir le prouver par de nombreuses expertises menées ces dernières années. Quant à la direction d'Orange, elle dément de son côté avoir commis le moindre manquement en matière de sécurité.
Maxime Deps, du vent et de la pluie, la circulation des TER a été interrompue ce matin entre Lorient et Quimper. La canicule est partie, la sécheresse reste. 80 départements concernés par des mesures de restriction d'eau et on le sait, l'impact est très visible pour les agriculteurs. Dans 60 départements désormais, les éleveurs peuvent faucher les jachères pour nourrir les bêtes. Le ministre Didier Guillaume demande aussi aux agriculteurs de faire preuve de solidarité. Les céréaliers de la Seine-et-Marne et les éleveurs de Lozère ou de l'Allier n'ont pas attendu les consignes pour ça. Reportage au pays du Brie, en région parisienne, Manuel Ruffez.
Au bout de son champ, derrière sa ferme, un tas de paille haut comme une maison.
Donc là, vous avez à peu près 50 tonnes de paille qui sont prêts à être expédiées, qui vont partir dans les 15 jours à venir pour ces régions.
Au cœur de la Brie, Cyril Millard est céréalier. Avec une trentaine d'autres, ils ont produit 1500 tonnes de paille pour aider des éleveurs qui puisent déjà pour nourrir leurs bêtes dans leur stock de l'hiver et appellent à l'aide.
Nous, dans nos régions, on a l'habitude de broyer parce qu'on n'a pas beaucoup d'élevage, donc on broie la paille. Et là, on a anticipé les choses et on a contractualisé avec notamment deux départements, la Lozère et l'Allier, pour garder la paille et qu'ils viennent la chercher et que ça leur serve pour faire des stocks pour l'hiver.
La paille est vendue, 22 euros la tonne. Les éleveurs doivent ensuite payer notamment le transport. Quant à l'autorisation de faucher les jachères, annoncée par le ministre, Cyril Millard reprend sa casquette de syndicaliste FNSEA pour dire trop tard.
Même dans nos régions, il y avait de l'herbe il y a un mois. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
C'est desséché.
C'est desséché. Il n'y a même plus de valeur nutritive intéressante pour la bête en elle-même. C'était il y a 2 mois qu'il fallait le faire. Il fallait nous écouter et donner l'autorisation à des régions où il y avait encore de l'herbe. Ça avait du sens. Aujourd'hui, il n'y a plus d'herbe nulle part.
Il fallait se réveiller plus tôt, renchérit Cyril Millard, qui appelle ça du bon sens paysan.
Manuel Ruffez, du requin en promo à l'Intermarché d'Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, de la viande de requin-renard, une espèce menacée dont la pêche est interdite, est donc en vente à l'étal poissonnerie, tollé du côté des associations de protection de la nature.
8h11, le journal Hélène Roussel. Hélène, pas d'indice suffisant contre Neymar. La police de Sao Paulo vient tout juste de boucler son enquête.
Oui, Neymar accusé par une jeune mannequin de l'avoir violé en mai dernier dans un hôtel à Paris. Il n'y a pas assez de preuves, dit donc la police brésilienne ce matin. Correspondant Sarah Cozzolino.
L'enquête est désormais dans les mains du parquet de Sao Paulo qui aura 15 jours pour décider ou non d'une inculpation. La saga judiciaire oppose la parole de Neymar contre celle de Najela Trindade depuis 2 mois. Pour la mannequin brésilienne, le rapport sexuel avec le footballeur était d'abord voulu cette nuit du 15 mai, mais elle a changé d'avis lorsqu'il s'est montré violent. Lui a continué et l'a violé. Après être revenu plusieurs fois sur son témoignage et avoir changé 3 fois d'avocat, Najela Trindade a déclaré avoir perdu la principale preuve, une vidéo qui attesterait de l'agression sexuelle et aurait été volée dans son appartement. L'avocat de la plaignante refuse de voir la décision comme une défaite. Le ministère public réexaminera l'enquête à la lumière de 2 nouvelles pièces qui devraient arriver, les images des caméras de surveillance de l'hôtel parisien et un examen gynécologique. La défense du joueur, qui a longtemps accusé Najela Trindade de tentative d'extorsion, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour France Inter.
Le Brésil encore et ce nouveau bain de sang dans une prison hier, au moins 57 morts. Bagarre générale entre 2 gangs rivaux dans cette prison du nord du pays. En Syrie, la lutte de Bachar el-Assad contre les rebelles se poursuit. Le régime, avec l'aide de la Russie, tente de faire plier les dernières poches de résistance. La province d'Idlib, dans le nord-est, est ainsi pilonnée régulièrement des bombardements qui n'épargnent ni les écoles ni les hôpitaux. Cet humanitaire urgentiste qui revient tout juste d'Idlib, Raphaël Pitti, sonne l'alarme. Il est au micro de Sébastien Sabiron.
Avant-hier, il y a eu 20 bombardements. Ça fait encore une vingtaine de morts. Et c'est maintenant plusieurs mois qu'ils n'arrêtent pas de bombarder tous les jours. Et c'est d'abord les zones sanitaires, c'est en même temps les écoles, de manière à terroriser les populations. Plus de 400 000 personnes se sont réfugiées dans les campagnes, n'ayant même pas de tente, pas de quoi être alimentées, pas d'eau, pas de toilettes. Tant qu'il y avait des camps, c'était assez facile d'organiser la distribution. Mais maintenant, toutes ces personnes qui sont dans les campagnes, elles sont difficilement atteignables. 3,5 millions de personnes qui vivent en situation de précarité, que l'on continue à bombarder, c'est le risque de les voir vouloir forcer la frontière turque. Alors ils rentreront en Turquie et ils viendront aussi en Europe. Il est vraiment important que nous puissions stabiliser cette situation le plus rapidement possible et apporter l'aide humanitaire dont ils ont besoin.
Raphaël Pitti, médecin humanitaire urgentiste de retour d'Idlib en Syrie avec Sébastien Sabiron. Près de 4000 morts en Afghanistan sur les 6 premiers mois de l'année. Le bilan de l'ONU ce matin est une précision. Ces victimes pour la majorité n'ont pas été tuées par les talibans ou Daesh, mais dans des opérations menées par l'OTAN. Les États-Unis, la Chine et les relations commerciales à couteau tiré. Les négociations reprennent après un mois de trêve avec Pékin qui montre certains signes d'ouverture qui lève aujourd'hui même ses restrictions sur les investissements étrangers. À Shanghai, Angélique Forget pour France Inter.
En Chine, il existe une liste de 48 secteurs qui définit les industries réglementées ou tout simplement interdites pour les investissements étrangers. Cette liste va désormais passer à 40 secteurs. L'industrie du spectacle, certains services de télécommunication, l'exploration pétrolière et gazière vont par exemple en sortir. Il y a 2 ans, cette liste comportait encore 63 domaines. La mise en place de cette mesure intervient alors que les négociations entre Pékin et Washington reprennent à Shanghai. La Chine semble vouloir donner des gages de bonne volonté. Au G20 d'Osaka au Japon, le mois dernier, Donald Trump et Xi Jinping ont assuré vouloir désamorcer les tensions. Ce n'est pas la première concession faite par Pékin. En mars dernier, l'Assemblée populaire chinoise avait adopté une loi qui prévoit un traitement plus équitable entre investisseurs chinois et étrangers. Mais les négociateurs américains seront-ils pour autant satisfaits de cette main tendue? Dans un contexte de ralentissement de la croissance économique, attirer des capitaux étrangers est aussi une nécessité pour Pékin. Shanghai, Angélique Forget, France Inter.
Mariage de géants au pays des puissants. Pfizer, le numéro 1 mondial de la pharmacie, fusionne ses génériques à ceux de l'américain Milan. Le petit nouveau dans l'industrie des labos va peser 20 milliards de dollars en chiffre d'affaires, selon les Échos.
Hélène, une histoire émouvante avec une cérémonie il y a quelques jours à l'ambassade de France à Berlin.
Oui, pendant cette cérémonie, Peter Forner, un Allemand, a restitué à la France un tableau, une œuvre spoliée en Normandie pendant la guerre avec la complicité de son père, qui était alors officier de la Luftwaffe. Antoine Sabag, France Bleu Haute-Normandie.
Il a soulagé sa conscience au bout de 75 ans. Peter Forner connaît depuis longtemps l'histoire de ce tableau accroché dans son salon berlinois. La peinture, signée Nicolas Rousseau, a été ramenée par son père lorsqu'il était officier de l'armée allemande entre 40 et 44 en Normandie. Mais il y a quelques mois, Peter Forner décide de contacter l'ambassade de France pour rendre le tableau. Julien Aquatella est le représentant en Allemagne de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation.
Monsieur Forner nous dit d'une part, je souhaite restituer un objet qui ne m'appartient pas. Monsieur Forner, il y a quelque temps, à l'aube de ses 80 ans, a passé un long séjour à l'hôpital, puis il a eu le temps, comme il le dit, de réfléchir à la situation. Puis il a décidé de rendre le tableau pour alléger sa conscience, alors qu'il n'est pas éternel.
L'objectif est maintenant de retrouver le véritable propriétaire, mais personne ne sait où et à qui a été volé ce tableau. D'où cette idée, l'exposer prochainement dans un musée ou une mairie de Normandie.
Peut-être que des gens qui le verront pourront nous livrer des informations quant à son origine, ou peut-être même, avec beaucoup de chance, nous retrouverons par ce biais-là les propriétaires ou la famille qui un jour possédait ce tableau.
Un tableau en assez mauvais état, il est estimé à près de 3000 euros, une valeur modeste. Mais ici, c'est bien sûr davantage le symbole de la réconciliation franco-allemande qui compte.
Antoine Sabag, pour se rendre à New York le 23 septembre au sommet mondial sur le climat, la jeune icône suédoise Greta Thunberg va prendre le bateau, un voilier de course zéro carbone, évidemment. Enfin là, rien ne change jamais au royaume de Disney, bien au contraire, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Hakuna Matata, pas de soucis, hein, pas de soucis pour le Roi Lion, plus fort que tout au box-office américain, pas de soucis de façon générale pour les studios Disney cette année, près de 8 milliards de dollars de recettes sur les 6 premiers mois de l'année, nouveau record. Hakuna Matata, c'est peu de le dire.
C'était le journal d'Hélène Roussel.